Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Maman, qu'est-ce que j'ai ?
Quelle excellente journée pour un exorcisme.
Bonjour à tous. On pense à des croyances d'un autre âge, mais à l'aube de ce 21e siècle, le diable et l'exorcisme existent bel et bien pour l'Église catholique. À Rome, le Vatican organise même des sessions de formation pour ses prêtres, mais pas seulement, pour toutes les professions, du psychiatre au policier qui pourrait croiser le démon. Reportage à Rome d'Éric Sénanc.
Les images ont marqué une génération entière, celle de Regan McNeil, jeune fille de 12 ans qui souffre d'étranges troubles du comportement et se fait exorciser par le père Merrin, armé d'un crucifix et d'eau bénite. Loin des clichés du film d'horreur culte de William Friedkin, l'exorcisme est toujours une réalité pour le Vatican. C'est même un phénomène en constante augmentation. Rien qu'en Italie, pas moins de 500 000 personnes ont déclaré avoir été victimes d'une possession démoniaque au cours des 10 dernières années.
Une psychosecte violente. Pour un problème culturel.
Cet après-midi, c'est un public pas comme les autres qui a pris place dans l'amphithéâtre de l'Institut Pontifical Regina Apostolorum dans le nord de Rome. Depuis 3 jours, un enseignement plutôt inhabituel y est dispensé. Pas de cours sur la Bible ou la philosophie, mais sur comment chasser le démon chez les personnes possédées. Dans l'assemblée, des prêtres, religieux et religieuses, mais aussi des psychologues, des médecins et même des membres des forces de l'ordre chargés de lutter contre les phénomènes sectaires. Le prêtre mexicain Javier Ramirez est l'un des organisateurs de cette session.
Quand nous avons commencé, nous nous sommes demandé s'il y aurait suffisamment de public. Et les premières années, il n'y avait qu'une quarantaine d'étudiants pour suivre le cours. Aujourd'hui, on en a 250 et tout est passé par le bouche à oreille. Les gens qui viennent ici n'ont pas de formation adéquate. On a des prêtres, mais aussi des laïcs qui s'intéressent au monde de l'exorcisme, des psychologues aussi. De manière générale, ils cherchent une formation pour soigner des personnes qui souffrent.
Clin d'œil sans doute au best-seller de l'américain Dan Brown, l'une des conférences s'intitule « Anges et démons dans les saintes écritures et les enseignements de l'Église ». Pour devenir exorciste, pas besoin de formation particulière. L'Église cherche avant tout des prêtres qui soient à l'écoute de ceux qui viennent les voir. Les séances sont parfois insolites. Un cardinal albanais présent à ce cours a fait sensation. Il a expliqué que des prêtres réalisaient des exorcismes avec leur smartphone. Lui-même a de nombreuses fois utilisé son téléphone. Il m'appelle, nous parlons, je récite des formules en latin, a-t-il raconté. Le diable et l'exorcisme sont des thématiques très populaires en Italie. TV 2000, la chaîne de l'Église catholique, y consacre même une émission spéciale hebdomadaire. Son titre, Va de Retro.
Va de Retro, il settimanale d'inchiesta di TV 2000 su sette, satanismo, movimenti e gruppi pseudo-religiosi.
Il y a quelques années, l'émission avait montré le pape François bénissant un jeune homme en fauteuil roulant. On voyait le pape lui apposer les mains sur la tête, récitant une prière. Le jeune homme était alors pris de convulsions. TV 2000 en avait déduit que le pape avait pratiqué un exorcisme, une information démentie à l'époque par le Vatican. Invité régulier de Va de Retro, Donaldo Buonaiuto, à 47 ans, ce prêtre spécialiste des sectes sataniques est l'un des exorcistes les plus en vue en Italie. Pour lui, l'exorcisme est une question sérieuse, loin du folklore hollywoodien ou de la littérature fantastique, un rite précisément défini par l'Église catholique.
La prière d'exorcisme concerne ce que l'Église appelle les activités extraordinaires, c'est-à-dire une action particulière des forces maléfiques qui fait qu'une personne est possédée par le diable et souffre terriblement. Les prêtres exorcistes reçoivent un mandat de leur évêque qui leur permet d'exercer ce rite de dépossession. C'est un ministère particulier. Il n'y a qu'eux qui peuvent pratiquer ce rite de la prière d'exorcisme.
Mais comment reconnaître une personne possédée d'une autre qui souffre de problèmes psychologiques ? C'est justement l'un des objectifs de ce cours annuel sur l'exorcisme, savoir discerner les possessions maléfiques des troubles psychologiques. Et pour Donaldo Buonaiuto, la frontière est parfois mince.
Il est fondamental que le prêtre exorciste collabore avant tout avec le milieu médical, avec les psychiatres, tous ceux qui doivent d'abord contrôler l'état de santé physique et psychique d'une personne. Le prêtre ne peut donc pas faire n'importe quoi. Après, on ne peut exclure le fait qu'aux problèmes psychologiques, il y ait aussi des problèmes d'ordre spirituel, de possession. Et là, cela devient très complexe.
Le Vatican prend la question des possessions diaboliques très au sérieux. En 2014, il a reconnu l'Association internationale des exorcistes, un réseau fondé en 1991 en Italie. Aujourd'hui, cette Cette association compte 400 membres, dont 240 vivent dans la péninsule italienne. Un phénomène qui dépasse largement les frontières de l'Italie. Pour la première fois cette année, cette formation sur l'exorcisme a proposé un cours sur les pratiques de magie noire en Afrique. De nombreux catholiques du continent sont en effet influencés par les pratiques de sorcellerie très populaires dans leur pays. Et le Vatican craint que le diable puisse s'y infiltrer.
C'est donc le coup d'envoi du Festival de Cannes aujourd'hui, un festival de cinéma que l'on dit cette année beaucoup moins glamour et plus politique que d'habitude. La preuve avec ces deux absents de taille, le réalisateur iranien Jafar Panahi et le russe Kirill Serebrennikov. Le réalisateur russe de 49 ans est assigné à résidence depuis son arrestation en août 2017. Il est accusé de détournement de fonds publics dans une affaire dénoncée comme politique à Moscou, Étienne Bouche.
Le 18 avril, il a été accueilli au tribunal Basmani de Moscou par de nombreux soutiens. La plupart sont restés jusqu'au bout, suivant pendant plus de 6 heures la retransmission de l'audience dans le couloir. Kirill Serebrennikov a vu son assignation à résidence prolongée jusqu'à fin juillet. Aucune peine n'a pour l'instant été prononcée contre le metteur en scène, comme si la justice attendait des instructions. Car l'affaire, qui concerne aussi 3 autres protagonistes, est majoritairement perçue comme un coup monté. Et l'accusation de détournement de fonds apparaît commode pour isoler un artiste encombrant. En Russie, Kirill Serebrennikov est une personnalité emblématique. Il est le metteur en scène le plus réputé de sa génération. Il dirige le Centre Gogol de Moscou, un théâtre qui séduit un public jeune et curieux avec des spectacles audacieux, abordant des sujets sensibles en Russie comme la religion et la sexualité. Il est également réalisateur de cinéma. Sa notoriété dépasse largement la Russie. En France, une 50aine d'artistes, dont Isabelle Huppert, ont signé une tribune de soutien dans Libération. Depuis son arrestation, Serebrennikov est devenu le symbole d'une liberté prise en étau. Le mois dernier, malgré son absence à la cérémonie du Masque d'Or, l'équivalent russe des Molières, le metteur en scène était dans tous les esprits. Il a reçu une récompense pour un opéra détonnant adapté d'un classique de la littérature russe. Le ton de la soirée était inhabituellement politique. La grande actrice Alla Demidova, 81 ans, a prononcé un discours puissant. La troupe du Centre Gogol, elle, s'est vue décerner un prix spécial pour ses recherches audacieuses d'un langage théâtral moderne.
De politique et de conflits armés, il en est aussi beaucoup question en ce moment dans le cinéma ukrainien, à commencer par le film Donbass de Sergueï Loznitsa, en compétition cette année au Festival de Cannes. À Kiev, Stéphane Sion.
Après 4 années et 10 000 morts, la guerre du Donbass, le seul conflit actif en Europe, commence tout juste à devenir un objet de cinéma. Et le quatrième film de Sergueï Loznitsa, appelé Donbass, qui sera en compétition dans la section Un certain regard, devrait provoquer le débat car il s'attache à montrer l'absurde de cette guerre, ces gangsters devenus paramilitaires et surtout cette propagande sans fin, orwellienne, présentée comme la vérité absolue. En Ukraine, la guerre est devenue un sujet d'inspiration. De nombreux réalisateurs tournent des documentaires et fictions s'inspirant du conflit. Et l'Agence nationale du cinéma ukrainien finance de plus en plus d'œuvres patriotiques, mais aussi des films d'auteurs qui donnent du sens à cette tragédie. Le carton de l'année dans les salles ukrainiennes, c'est un blockbuster portant le nom de Cyborg, un film d'action qui retrace la bataille de l'aéroport de Donetsk en 2015. Le film a fait plus d'entrées à Kiev que le Dunkerque de Christopher Nolan. Seulement, la guerre entre la Russie et l'Ukraine fait aussi polémique. Alors que les cinémas de Moscou et de Kiev étaient autrefois très liés, les Ukrainiens ne veulent plus se rendre dans les festivals russes tant que la guerre durera entre les deux pays. Le dernier scandale a éclaté en avril lors du prestigieux festival de Tribeca à New York, fondé par Robert De Niro. Le jury a récompensé un documentaire russe qui met en scène Zakhar Prilépine, un écrivain russe, national-bolchevique, qui a pris les armes dans le Donbass. L'affaire a énormément choqué à Kiev, où on considère cet écrivain comme un terroriste. Plus de 5000 personnes ont demandé au festival new-yorkais de présenter ses excuses.
C'est C'est normalement jeudi prochain que David Goodall, scientifique australien très renommé de 104 ans, devrait mettre fin à ses jours dans une clinique en Suisse. Un suicide assisté qui provoque pas mal de commentaires. Pour en parler, on retrouve Jérémy Lalanche en Suisse. L'Australie n'autorise donc pas le suicide assisté alors que la législation suisse remonte au siècle dernier.
Oui, la Suisse fait même figure de pionnière. Les premiers débats sur la décriminalisation du suicide datent de la fin du 19e siècle. À l'époque, il est moins question des souffrances liées à la maladie que des morts commis pour l'honneur. En 1918, la Suisse adopte une loi unique au monde. Elle rentre dans le code pénal en 1942 et est autorisée l'aide au suicide d'une personne à condition que celle-ci soit en pleine possession de ses capacités intellectuelles et qu'il n'y ait aucune motivation égoïste. En clair, vous ne pouvez pas aider quelqu'un à mourir si vous héritez de ses biens. On parle bien de suicide assisté. C'est à la personne qui souhaite mourir d'accomplir le geste suicidaire. L'euthanasie active reste considérée comme un meurtre.
David Goodall n'est pas le seul étranger à se rendre en Suisse pour mourir. Il sera même plus d'une centaine chaque année.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 86 suicides assistés en Suisse en l'an 2000, 965 15 ans plus tard. Les données ne concernent que les personnes domiciliées dans le pays. Si on ne connaît pas les chiffres exacts des étrangers, c'est parce que la pratique en Suisse est très libéralisée. Les médecins y ont un rôle secondaire, à l'inverse de pays comme la Belgique et les Pays-Bas. En Suisse, ce sont les associations d'aide au suicide qui s'en chargent. Il y en a 5, seuls 3 acceptent des étrangers, à condition d'en payer le prix. Chez Dignitas, l'une de ces associations, le tarif varie entre 6270 et 8 780 € selon les frais d'obsèques.
Merci Jérémy Lalanche en Suisse. Des services d'aide à la personne, une supérette, un restaurant, la coopérative Fixarna à Gävle, dans le centre de la Suède, a réussi à redynamiser une région touchée de plein fouet par les fermetures d'usines et donc le chômage. C'est le reportage de Laurent Berthaud.
Il y a 7 ans, Mats Bergquist était employé à la DRH de la plus grande scierie de la région. Aujourd'hui, il contemple un paysage désolé de hangars abandonnés.
Nous sommes dans la zone industrielle du village de Norsundet, devant les anciens bâtiments de la scierie qui a fermé il y a 7 ans et de l'usine de pâte à papier fermée depuis 10 ans. Au total, ce sont 500 personnes qui ont été licenciées, sans compter les sous-traitants. Bien sûr, ça a été un coup dur pour la région quand tout a fermé. Certaines personnes sont parties à la retraite, d'autres ont retrouvé du travail dans la ville de Gävle ou dans les villages alentours, mais beaucoup d'autres non. Beaucoup de gens avaient travaillé ici toute leur vie. Ils n'avaient aucune expérience de recherche d'emploi. Ça a été difficile pour eux.
La mine sombre, Mats nous fait visiter le site désaffecté en voiture, puis nous prenons le chemin de la coopérative de travailleurs à quelques kilomètres à peine, un ensemble de bâtiments plantés le long d'une route départementale. Fixarna a été créé il y a 5 ans par d'anciens salariés des deux usines, dont Mats, et des particuliers de la région, avec des fonds européens et nationaux, 45 000 euros en tout. La structure emploie désormais une quinzaine de personnes, à commencer par Ronnie Becklin, qui aujourd'hui tient la supérette de la coopérative, accolée à une station-service.
Avant d'arriver ici, j'ai bossé 35 ans dans l'usine de pâte à papier. J'en ai accumulé des produits chimiques dans le corps. Après la fermeture, j'ai fait des petits boulots, dans le théâtre, avec des migrants. Je suis à Fixarna depuis 3 ans. Je travaille sur différents postes. Un jour, je suis ici, à l'épicerie. Le lendemain, je fais le ménage chez des particuliers. L'hiver, je déblaie la neige. Au printemps, je tonds le gazon, je m'occupe des jardins. Et parfois, je donne un coup de main au café. J'aime bien ça. Mais comme j'ai 63 ans, je commence à penser à partir progressivement à la retraite.
Appelez-nous, on s'occupe du reste. Le slogan de Fixarna a fait son succès dans une région où vivent de très nombreuses personnes de 60 ans et plus. Laver les voitures, monter les pneus hiver ou été, c'est aussi un service proposé par Fixarna. Éponge à la main, Per Gunnar Berglund a repris confiance en lui.
Je suis resté tellement longtemps sans travailler, 10 ans. J'ai eu des problèmes de sommeil à force de ne rien faire du tout.
À deux pas de la station de lavage et de la supérette, le café-restaurant Fixarna attire les nostalgiques des années 50-60. Un jukebox, des meubles aux lignes élancées, une déco rétro, de la vaisselle aux couleurs vives, des magazines d'époque, le succès de l'endroit est assuré au beau jour. C'est également dans ce bâtiment que Fixarna a installé ses bureaux. J'y retrouve Britt Marie, qui avec un collègue gère les demandes des particuliers et s'occupe des 350 factures établies chaque année.
J'ai 59 ans et ça fait bientôt 4 ans que je travaille ici. Je suis à mi-temps thérapeutique. Avant, j'étais employée comme agent administratif dans une entreprise, mais mon corps a dit stop. Je ne pouvais pas rester assise. Ici, je m'occupe un peu de tout. Je travaille au bureau, je donne un coup de main au café, je peux me lever et m'asseoir quand j'en ai besoin. Ici, je me suis fait des amis. J'adore cet endroit. C'est parfait pour moi. Perfect for me.
Hey, service particulièrement apprécié de Fixarna, la livraison de repas à domicile, des repas préparés dans un restaurant partenaire. Chaque jour, Arne attend le passage de la camionnette.
Oui, c'est vraiment pratique parce que je ne peux pas faire grand-chose moi-même, je suis quasiment aveugle.
Et en général, les plats sont bons ?
Ça dépend, mais la plupart du temps, oui.
Ce jour-là, Benou Lundin doit effectuer 14 livraisons de repas. Mais son travail ne s'arrête pas là. Il assure un contact quotidien avec les clients.
S'ils n'ouvrent pas la porte, on leur téléphone. On vérifie qu'ils ne sont pas malades ou qu'ils ne sont pas tombés.
Oui, chaque ans.
À quelques kilomètres de là, une autre camionnette Fixarna égarée devant une grande maison vide. Les propriétaires ont demandé à la coopérative d'y faire le grand ménage. O.C. Nielsen a choisi de quitter son précédent emploi dans un musée régional pour la coopérative.
On fait toujours quelque chose de différent, ce n'est jamais pareil. On apprend à faire des choses qu'on n'aurait jamais cru possible. Tondre le gazon, tout nettoyer, apporter de l'aide aux personnes. Services for people.
Aujourd'hui, la coopérative génère un chiffre d'affaires de 470 000 euros par an. Une quinzaine de personnes y travaillent, dont 7 payées par la commune. Cela paraît une goutte d'eau au regard des 500 personnes licenciées il y a quelques années. Mais il faut aussi prendre en compte la cinquantaine de chômeurs qui, depuis 4 ans, ont pu y suivre une formation et remettre un pied dans le monde du travail. Mats Bergquist, l'ancien employé de la DRH, aujourd'hui bénévole, est persuadé que l'activité de service permettra la création de nouveaux emplois à condition de proposer toujours plus de prestations.
Pour élargir nos compétences, nous allons dispenser des formations financées par le gouvernement suédois. Formation au travail en hauteur, à l'abattage des arbres, au maniement des tronçonneuses. Plus nous aurons de compétences, plus nous pourrons embaucher. Et nous savons qu'il y a une demande pour tous ces travaux. Nous voulons aussi réparer les pierres tombales dans les cimetières. Une nouvelle loi sur la sécurité l'impose. On imagine aussi faire pousser des légumes que nous pourrions servir dans notre café-restaurant et vendre dans notre supérette. Les idées ne manquent pas. Il faut juste avoir des personnes formées comme il faut à ces activités.
Polyvalence, imagination, réactivité, les coopérateurs de Fixarna ne veulent pas baisser les bras dans une région où le taux de chômage atteint 10% alors qu'il est de 6,5% dans le reste de la Suède.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Boris Vichit avec le soutien de l'Union européenne. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique magazine Accent d'Europe, et sur les réseaux sociaux. À demain.